Ok. Micro, parle pour voir.
1, 2, 1, 2, test, test.
Yeah.
C'est bon, ouais.
Parfait. Cool. J'étais. Alors, test. Ah, oh non, le chat, mais. Ah, oh, descends de la table, tu m'énerves.
Miaou! Oh, mais allez, moi aussi je veux participer.
Le chat parle.
Elle parle.
Elle parle.
Ah ouais, elle,
okay,
parle.
Elle parle.
Ah oui, tiens, je parle. Bon, bah, du coup, je peux faire le podcast avec vous. D'autant plus que d'habitude, vous dites des grosses conneries quand même. Allez, hop, miaou, miaou. Test. Oh, c'est fun.
Hein? Non, mais quoi?
On s'envoie les coussinets. Allume les micros. Redonne miaou des croquettes.
C'est parti.
Ah, bah, t'es aussi aimable que quand tu miaulais, toi, dis donc.
Je miaule peut-être plus. Mais j'ai encore des griffes. Alors fais gaffe à toi, si tu veux pas finir dans la litière.
Ok, ok, j'ai rien dit. Bah, puisque tu parles, tu dois entendre. Et t'as dû entendre que c'est un podcast qui parle d'animation animée par quoi? Des animateurs, c'est ça, pas par des chats.
Des chats animateurs? Non, personne. Ok.
Bien, faites de moi une chat animatrice alors. Prenez-moi les ficelles, enseignez-moi les techniques, transmettez-moi votre savoir-faire, bordel.
Non mais attends, mais ça se fait pas comme ça, ça prend des années. Puis excuse-moi, mais je vois pas comment tu peux tenir un crayon ou une souris avec tes pattes.
Les souris, je les mange.
Oh, misère, misère. Ok, ce que Robin essaie de te dire, c'est que on a ni le temps, ni les moyens, et franchement, ni l'envie. Puis l'animation, de toute façon, c'est pas fait pour les chats, d'accord?
Mais moi, je veux faire de l'animation. Je veux pouvoir participer au podcast.
Genre, il me semble qu'on n'est pas le chat, le choix, pardon. Sinon, je vais l'entendre parler jusqu'à la prochaine saison.
Yeah,
ah là là, vous êtes bien dans 12 FPS, et aujourd'hui, on vous parle du chat du Robin.
T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races.
Madame Laurie, je suis content. C'est ton rêve.
Efficace la potion, ils mettent quoi dedans?
La rivière Kouakou.
Kouakou, on connaît bien, hein, on y va tous les étés.
Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle du Chat du Robin, film d'animation traditionnel sorti en 2011, produit à Banjo Studio et réalisé par Johan Sfar et Antoine Delevaux, adapté de la bande dessinée du même nom de Johan Sfar. Au doublage en VF, nous avons François Morel qui double le chat, Maurice Bénichou qui double le Ramin et le lion, Afsia Herzi qui double Zlabia, François Damien qui double Tintin, Mathieu Amalric qui double le prince et Mohamed Felag qui double le Sheikh Mohamed Sfar. Ce ne serait pas un épisode de 12 FPS si je ne vous précisais pas que ce film a reçu le cristal du long métrage à Annecy en 2011. Voilà.
Et le César du meilleur film d'animation, non?
Je n'avais pas cette information, mais probablement.
Je crois que c'est ça.
Okay. Ouais, avec moi aujourd'hui pour parler du film, Robin, du coup.
Bonjour.
Ça va?
Ça va et toi?
Oui, ça va tranquille. Et Ségolène, que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu.
Oui.
Ça va?
Oui.
C'était quoi ton dernier épisode?
Astérix.
Non,
Eldorado, je crois.
Eldorado.
Ouais. Ça fait deux saisons.
Ça fait deux saisons que tu nous as manqué sur la saison 3.
Et mais comme tu nous as vraiment manqué, tu vas nous résumer le film.
Oui, mais je me suis préparée.
Yes.
Donc, on suit l'histoire du chat qui, il en a marre d'entendre le perroquet dire qu'il aime Zlabia, sa maîtresse. Du coup, il bouffe le perroquet. Et grâce à ça, il obtient la parole. Mais il raconte des mensonges dès le départ. Ce qui fait que son maître, le rabbin Sfar, ne veut pas qu'il reste avec sa fille parce que c'est du coup un mauvais chat, parce qu'il ment et il a reçu la parole par le meurtre. Mais comme Zlabia veut absolument retrouver son chat et le chat veut absolument retourner vers sa maîtresse, le rabbin prend le pli de du coup lui apprendre à être un bon juif. Ils partent après ça en quête initiatique à travers toute l'Afrique pour essayer de trouver la Jérusalem noire dont un russe arrivé inopinément dans un carton plein de livres dit qu'elle existe tout au fond de l'Éthiopie. Voilà.
Je l'imagine vraiment en train de répéter devant un miroir.
Avec un faux micro, tu sais.
Devant son compagnon, genre, est-ce que c'était bien? Ou est-ce que je mets de l'emphase?
Non, même pas en plus.
Eh ben super, pour un résumé de retour, vraiment très bien.
Ouais, tu étais vraiment dans le top 10. Tu devais avoir 10 personnes max,
ouais,
du coup.
Ça, donc, ouais, t'es dans le top 10, sans problème.
Ça me fait
quoi.
Tellement plaisir.
Ouais, je sais. Hein.
Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle?
Bah, Ségolène, qu'est-ce que tu as pensé du film?
Moi, j'ai bien aimé. Je l'avais déjà vu à sa sortie à l'époque. Je l'avais déjà trouvé bien. Je n'avais pas forcément, je pense, vraiment relevé tout, parce que j'avoue qu'il y avait des choses que j'avais oubliées, genre même le Tintin, je l'avais complètement oublié, donc ça a été un peu une surprise de le revoir. Ouais. Mais je l'avais déjà beaucoup aimé à l'époque, je l'ai beaucoup aimé là, et voilà, ça me l'a fait un peu redécouvrir, mais pas tant, parce que je m'en souvenais bien. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après en avoir discuté avec d'autres qui l'avaient vu à l'époque et qui n'avaient pas trop aimé, quand je leur ai dit de quoi ça parlait, ils ont fait « Ah, en fait c'est bien !» Donc voilà, mais non, moi j'aime bien aimer.
Jean ?
Je l'avais jamais vu. Puis c'est une bonne découverte.
Tu l'avais jamais vu ?
Non, je l'avais jamais vu. J'en avais toujours entendu parler. Puis ce genre de film, tu sais, t'entends parler, tu fais ah, ça a l'air cool. Et tu le mets de côté. Et genre, 10 ans, 15 ans après la sortie, bah, tu le regardes. Parce que tu fais un podcast dessus. Okay. T'as pas le choix.
Ouais.
J'ai trouvé ça cool. Il y a plein de choses qui m'ont plu. La musique est incroyable. Les doublages sont très très bons.
J'écoute la BO en boucle depuis que j'ai revu le film.
C'est beau. Les dessins sont beaux. Je trouve qu'il y a des inconsistances dans le style.
Ouais.
On en reparlera, je pense. Mais sur la production, il disait qu'il y avait énormément d'animateurs de tous âges et de toute expérience.
Beaucoup de juniors que ça... aussi.
Ouais, mais des juniors et aussi des seniors, des gens qui venaient de Disney. Enfin, bah, y avait un peu de tout. Ils ont beaucoup dessiné d'après nature, ce qui se ressent, parce que c'est de la belle 2D assez naturaliste. C'est pas cartoon, c'est pas...
Mais c'est son style de BD, en fait. Ouais. Lui, il dessine vraiment d'après nature.
C'est vraiment appuyé sur la BD, apparemment.
Et lui-même, il dit que son style n'est pas consistant d'une page à l'autre, en fait.
Ok, d'accord. Bon, ça m'a pas choqué plus du que coup, ça, mais c'est un truc que j'ai remarqué. Puis les personnages sont très caractérisés, c'est vraiment plaisant à voir. J'ai juste trouvé qu'au niveau de l'histoire, c'est un peu bizarrement découpé.
Ouais.
Et t'arrives à la fin, t'as pas vraiment l'impression que c'est une fin.
Ouais.
Mais c'est une critique qui a déjà été faite sur le film, puis c'est adapté de 3 tomes différents de la BD qui se suivent pas nécessairement.
C'est ça.
Donc c'est un peu confus, mais j'ai quand même passé un bon moment.
Ouais. Moi, je l'avais vu il y a je sais plus combien de temps. Il traînait pareil sur un disque dur. Tu sais, le genre de film où on te l'a copié un jour sur un disque dur.
Ouais.
Et un soir, je savais pas quoi regarder, je fais vas-y, let's go. Et je me souviens que ça m'avait bien surpris à l'époque. Je m'attendais pas à ça. Puis le style de dessin, au début, je fais oh, vas-y, on verra ce que ça donne. Puis finalement, j'avais passé un bon moment. Donc là, le revoir, en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié. Je crois que les rares passages qui m'étaient restés, c'était le passage avec François Damien. Mais sinon, tout le reste, j'avais oublié. Puis c'est surtout, je l'avais pas avec le même œil maintenant qu'on fait le podcast. Où je l'ai vraiment regardé avec plus un œil analytique sur plein de choses. Mais en fait, tout le long du film, la première fois que je l'ai vu, je me sens que j'étais en stress. Je me suis fait, oula, il apporte des sujets un peu... j'ai peur que ça déraille, tu sais, un peu trop. C'est comme si c'était des sujets très sensibles, la religion, les croyances et tout. Puis en fait, c'est vraiment bien géré, bien amené. C'est plutôt un témoignage, en fait, de sa jeunesse quand il était en Algérie, quoi. Et du coup, après, en même temps, je me dis, bah, c'était un peu la meilleure personne pour en parler, hein, du coup, puisque tout ce qu'il a vécu. Mais c'est un très beau pamphlet, en tout cas, sur la tolérance. Et j'ai bien aimé aussi, quoi, du coup.
Mais c'est sur les petites intolérances aussi, et les plus grosses.
Ouais.
Mais on verra au final du film, il y a une scène où ça va très loin. Mais après, le reste du film, c'est plutôt des petits moments de conflit entre religions, entre...
Bah c'est ça, c'est aussi le côté où, en fait, tout le film, on parle de religion et de tolérance, alors qu'en fait, il montre aussi les personnages qui, de par la religion, dressent les plus grands murs, en fait.
Ouais.
Tu fais, bah, tu tolères pas tant que ça, alors que tu prônes l'acceptation, mais finalement, en fait, tu dresses des murs autour de toi pour voir ce qui se passe, puis ouais, c'est ça. Mais je trouvais trop l'amitié super touchante entre son ami...
Sphères.
Entre les deux sphères, musulman, lui, juif. Ouais. Puis quand ils prient de chacun de leur côté, chacun fait, tiens, c'est trop beau, tu vois.
Ouais, c'est mon personnage préféré, le
Sheikh. Il est incroyable, il est super.
Il est vraiment bien. Mais il le décrit comme étant la représentation de l'islam, comment il dit, l'islam éclairé et instruit. Et je trouve vraiment ça beau.
Mm. Ouais, c'est vraiment cool. On passe au coup de génie, allez.
C'est brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur!
Et toi qui commences, Robin?
Ouais, alors... Comme Ségolène vous l'a dit dans le résumé, le chat se dote de la parole dans le film en mangeant le perroquet. Donc moi, je le vois un peu comme le perroquet peut parler. Comme il mange le perroquet, ben, il peut parler comme le perroquet. Et en fait, moi, j'ai pris la scène où il explique en fait comment il rêve et comment il rêvait avant en tant qu'animal et comment il rêve maintenant depuis qu'il a la parole. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant, ce passage. En plus, le style d'animation, il change. On rentre dans des animations beaucoup plus cribouillées.
Cribouillées. Fait un mix entre gribouillé et crayonné.
Ouais, c'est ça. Gribouillie. Ce qui donne une ambiance un peu plus sombre au film et tout. Puis il parle vraiment d'un truc un peu banal, en fait, dans son film.
Le rêve est cool.
Et en fait, je me dis, ah, ok, donc c'est intéressant d'aborder ce sujet où, en fait, quand tu récupères la parole, t'as une conscience sur les choses et le monde que t'as pas forcément en tant qu'animal, où ben, ton but c'est de manger, dormir et te protéger, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'arrives dans l'esprit d'un humain, t'as d'autres peurs. Et ça, là, il prend peur pour sa maîtresse qui peut mourir, son maître qui perd la foi, et des choses où ils l'ont vraiment humanisé énormément. Et en fait, c'est juste via la parole. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme passage. En plus, le style d'animation il change complètement, le dessin il change complètement. Ce qui fait qu'il y en a plusieurs des passages comme ça dans le film où le style d'animation et le dessin changent. Soit c'est pour des flashbacks, soit c'est pour raconter des trucs un peu rêvés, soit c'est pour raconter des. Ou ta séquence là où c'est un peu. On n'arrive pas à savoir dans le film si c'est vrai qu'ils l'ont vécu.
Voilà, est-ce que c'est un fantasme, ou si c'est un fantasme, tu vois. C'est vrai.
Et je trouve que c'est pas mal en fait en termes d'animation parce que ça nous sort du style. Et du coup, on se dit, s'il y a un changement de style, c'est qu'on a un changement de point de vue ou un changement d'histoire en fait. Donc, du coup, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et du coup, ça raconte un peu vraiment ce truc-là, mais c'est vraiment badant le rêve. Hein. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant, c'est pour ça que j'ai pris cet extrait, parce que t'as vraiment ce truc qu'on conscientise, le chat commence à conscientiser, à s'humaniser via la parole, et voilà, donc c'est pour ça que j'avais pris cet extrait.
Moi, je trouve intéressant le coup de « il a la parole parce qu'il a mangé le perroquet ». Quand j'ai vu le film, j'ai pas du tout pensé à ça. Pour moi, il a juste la parole parce qu'il a la parole, point. Et en fait, j'avais pas capté ce lien avec le truc du perroquet, mais comme tu dis aussi, il acquiert la parole, il s'humanise un peu plus avec ses histoires de rêve, il devient un philosophe, il veut devenir croyant.
Ouais.
Donc il y a tout ce côté humain qui arrive, et du coup, c'est vrai que le truc du perroquet, pour moi, était tellement anecdotique que je l'ai mis de côté. Et c'est après, en recherchant un peu des choses sur le film, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il mange le perroquet, mais j'avais complètement oublié.
Ouais, moi je pense qu'il y a un truc de la manière dont je l'ai vu, c'est qu'il peut que miauler, donc il peut pas dire à sa maîtresse qu'il l'aime, alors que le perroquet peut. Et en mangeant, il acquiert la parole et il peut dire à sa maîtresse qu'il l'aime. Et après, il lui fait lire le rouge et le noir de Stendhal.
Ouais,
donc, c'est encore une fois un truc sur l'amour. Donc, vraiment, le chat est dédié à sa maîtresse par l'amour, quoi. Mais ouais, du coup, c'est ça.
Ouais, puis c'est tout le propos du film aussi. Finalement, quand il dit qu'il veut se convertir au judaïsme et être croyant, mais au final, il dit qu'il.
Dès le début, il dit qu'il
croit pas en Dieu. Quand il va voir le vieux rabbin, d'ailleurs, qui est aussi un des meilleurs personnages, il blasphème tout de suite. il dit qu'il croit pas en Dieu, il se moque de la croyance du vieux rabbin en disant que lui, il a pas besoin de croire en Dieu parce qu'il mourra avant sa maîtresse et qu'il sera toujours heureux.
Ouais, ça c'est vrai aussi. Mais tu vois, après, même tout le dialogue qu'il y a avec le rabbin où il lui met que des arguments scientifiques face aux arguments religieux de la création du monde,
oui,
et tout ça.
Mais le rabbin, qui est un peu Johann Svar, il va pas contre lui, il va pas dans le conflit. Il est beaucoup plus cool, il est beaucoup plus chill. Il lui dit oui, c'est vrai, t'as un peu raison, mais ceci, cela. Puis il lui oppose des arguments plus théologiques, spirituels, mais sans aller à son encontre. Alors que le vieux rabbin, le rabbin du rabbin,
il rejette
tout complètement. Il est tout de suite dans l'agression et dans le conflit.
Et puis il s'en prend une dans la gueule. Et
ouais,
c'est très bien. Tu le vois à la fin, quand il se la prend dans la gueule par le russe, là, tu fais ah merci.
Mais c'est très drôle.
Ouais.
Avant, quand je n'avais pas la parole, je faisais des rêves simples. Dans mes rêves, je poursuivais de petites bêtes. Les animaux plus gros me poursuivaient. Je courais très vite pour leur échapper. Enfin, je trouvais refuge dans les bras de ma maîtresse. Elle me donnait 1000 caresses. C'était des rêves de petits chats. Depuis que j'ai la parole, tout a changé. Je cauchemarde. Je rêve que ma maîtresse est malade et qu'on ne peut pas la soigner. Je rêve qu'un jour, je ne la vois plus et qu'on me dit qu'elle est partie en voyage. Je passe mon temps à dire à tout le monde qu'elle est partie en voyage, mais qu'elle pense à moi, qu'elle va bientôt revenir avec un cadeau. Un jour, le rabbin a trop de peine de m'entendre répéter cette fable. Il me prend sur ses genoux et me dit la vérité. Elle est morte. Ouais. Depuis que j'ai la parole, je rêve souvent que ma maîtresse est morte, que le rabbin se retrouve seul avec moi. Et le rabbin rejette la religion. Il renie son maître, congédie ses disciples. Alors moi, qui n'ai jamais cru en Dieu, je dois faire semblant d'y croire pour lui remonter le moral. Allez, maître, regarde, il est partout, Dieu, même si on ne le voit pas.
Ne me sers pas ces boniments, je les connais trop.
J'insiste, je lui dis que je veux faire ma bar mitzvah pour le motiver, pour qu'il se sente responsable de quelqu'un.
Toutes ces histoires, ça suffit. Et puis explique-moi une bonne fois pourquoi tu veux tellement être un humain alors que je voudrais être un chat.
Alors dans ce rêve, mon maître et moi, on se transforme en chat. On traîne dans les rues tard la nuit, on fait les poubelles des boucheries dont la viande n'est pas cachère. Il y a des chattes qui miaulent, j'en chope une par le cou pour lui apprendre un peu. Mon maître ne veut pas comme ça, des restes d'humanité ou alors il est vieux. Et nous allons voir ma maîtresse. Mais elle n'est pas à son piano. Elle n'est pas dans sa cuisine. Elle ne lit pas de livres. Elle est dans son tombeau. Et nous n'avons pas le droit d'y aller.
Bienvenue dans 12 FPS.
Le podcast de la dépression.
Prenez un cutter et vos veines.
Ne faites pas ça. Le doublage du chat est très bon. Puis il y a la musique en fond. On parlait un peu de la musique tout à l'heure. Le process qu'ils ont eu était vraiment intéressant. C'est le même compositeur que pour Gainsbourg vie héroïque.
C'est vrai qu'il a réalisé
que Johan Sfar a déjà réalisé, donc qui était un film live action, mais ça c'est son premier film d'animation. Et là, le process en fait qu'il a eu, le compositeur, était très différent, où c'était beaucoup plus sur de l'improvisation et un peu comme du jazz, des musiciens qui se répondent les uns les autres, donc comme une jam un peu de musique. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a des petits making of sur YouTube, des petits shorts qui ont été faits par le distributeur.
Ça ressort très bien hein, ce qu'ils ont fait.
Ouais, bah, c'est vraiment excellent.
La bande-son, je l'écoute à fond. Hein. La musique d'ouverture du film.
Ah, ça te met tellement bien.
Ouais.
T'as la musique d'ouverture du film. T'es tout de suite dans l'ambiance en plus. J'ai envie d'aller au Maghreb, être au soleil, manger des petites pâtisseries.
Quand tu pars à moins 15 degrés.
Ouais, c'est ça. Après, c'est quoi ces gens?
Oui, moi je vais vous parler d'un personnage de BD célèbre.
Gaston
Lagaffe. Ouais, c'est ça.
Pirou.
Qui est s'appelle Orio Tintin. Donc, si vous avez lu l'album fameux Tintin au Congo, vous allez tout de suite voir de quoi je veux parler. Dans le film, donc, dans leur voyage, leur périple à travers l'Afrique, puisqu'on imagine. En fait, ils traversent vraiment toute l'Afrique. Ils partent d'Algérie, ils vont jusqu'en Éthiopie, donc ça fait quand même un sacré bout. Et à un moment, ils rencontrent. Il y a une séquence qui dure le temps de l'extrait, là, vous allez voir, vraiment, c'est rien du tout.
Ouais, c'est 30 secondes.
Hein. Et il rencontre Tintin. Donc. Et du coup, je fais, putain, c'est drôle qu'il ait mis Tintin, puis il est un peu redessiné. Et du coup, ils ont fait de Tintin ce que Tintin était.
Il est Johan Sfarisé, ouais.
Ouais, il est un vieux colon raciste, mais belge. Et du coup, doublé par François Damien, c'est incroyable. C'est vraiment excellent. On peut écouter l'extrait, puis je vais en reparler après, parce que c'est vraiment mortel.
Au Congo belge, nous croisons un jeune reporter, très sûr de lui.
J'ignorais qu'il y eût des Israélites aussi loin en territoire nègre.
Et son chien est stupide.
Hé, hey, chef, vous n'en avez pas griffé, moi,
hein? Il nous prend pour des demeurés.
Vous voyez? Ceci est un journal dans lequel j'écris. Enfin, je n'écris pas moi-même, naturellement. Nous utilisons une invention qui s'appelle l'imprimerie. Vous avez déchiffré la lettre occidentale, vous autres?
Il parle tout le temps, il écoute rien.
Vous voyez, là, quand vous me regardez, là, je suis occupé à me laver. Je me lave une fois par jour. Ça me préserve des maladies, des poux, etc.
Se laver, c'est pas un jeu, hein. C'est excellent pour la santé. Hein.
Au revoir, mes amis. Et n'oubliez pas de me retrouver toutes les semaines dans le journal. Et ciao.
Dans ta gueule, Hergé.
Ouais, voilà. C'est formidable. Donc, la prochaine fois que si vous habitez à Angoulême et que vous passez devant la statue d'Hergé, là, dans la rue Hergé, pensez à cette séquence. C'est vraiment formidable. Donc, François Damien a vraiment cette petite séquence. Puis, c'est inspiré des pubs, des vraies publicités des années 40, en fait, pour faire le personnage et écrire un peu les trucs de dialogue et les trucs.
C'est lui qui a écrit le dialogue.
Je pense qu'il a eu beaucoup d'improvisation et Johan Sfar lui a donné beaucoup de trucs parce qu'il s'est vraiment inspiré. Puis, je voulais citer un truc que Johan Sfar dit. Ils utilisent l'auto-chenille là, dans le film pour se déplacer, qui est une espèce de véhicule Citroën qui a existé pour une exposition universelle dans les années 50. Et il y a un guide, et à un moment il en parle un peu dans le film d'ailleurs. Et
le guide Citroën.
Le guide Citroën, et il y a des commentaires dessus de colons français. Et il dit « Quand on lit les commentaires du guide Citroën, on s'aperçoit que ces gens aimaient passionnément l'Afrique. Mais, esclaves de leur époque, ils écrivaient une bêtise par ligne. » On a du mal à croire qu'il y a 60 ans à peine, on pouvait lire que dans certains villages d'Afrique, on mangeait des blancs. Et c'est vraiment très drôle parce qu'il dit « Ouais, c'est vrai que c'est des gens qui aimaient l'Afrique et tout, mais ils étaient juste très cons, en fait. »
Mais même là, tout le...
Beaucoup d'idées reçues, quoi.
Je veux dire, en fait, la manière dont c'est aussi découpé dans le film, c'est que c'est vraiment... On allait sur de la caricature pour aller très vite et puis présenter un personnage. C'est une séquence, comme vous avez entendu, 30 secondes qui est assez hilarante, en fait. Et en fait.
Elle est là juste pour l'humour.
Elle est là juste pour l'humour. Puis même la musique, elle change derrière et tout ça avant qu'elle reprenne la musique de base. Mais surtout une sorte de diptyque, en fait, où c'est à chaque fois une scène où vraiment ça commence en sépia, ça prend la couleur, il fait sa ligne, scène d'après, juste pour en fait montrer différents passages avec lui où vraiment il les méprise, en fait. Il les considère vraiment comme des animaux qui savent pas manger, qui savent pas se laver, qui savent pas lire, tu sais, ou qui toujours oui, voilà, ils ont leur alphabet, mais du coup ça compte pas, c'est notre alphabet occidental qui compte, enfin ce genre de, tu sais, je fais oh là là.
Ouais, mais c'est vrai, le colon est vraiment tourné en dérision, mais il y a un moment un peu plus tôt dans le film que j'ai failli prendre en extrait où le rabbin Sfar, il se fait refuser la place à un café parce que on sert pas les juifs, oui. On sert pas les arabes.
Ah, avant là, ouais.
Surtout tout au début.
Parce que ouais. on reste quand même dans l'Algérie colonisée par la France, quoi.
Bah c'est ça, je disais, c'est un témoignage parce que lui, je suis allé regarder un petit peu, il vient de faire, il a grandi dans cette Algérie où t'avais les juifs, les musulmans et les chrétiens qui cohabitaient et c'était vraiment, c'était les années
1920.
C'est dans les années 20-30, ouais. Ouais. Dans le film, en tout cas, c'est, ouais, je pense que c'est...
Moi, je crois que c'était un peu plus tard. Hein.
Lui, c'est plus tard, mais c'est... il a pris plus tôt parce qu'il s'est aussi basé sur ce que racontait sa grand-mère, en fait.
Ah, voilà, ok. Mais ouais, du coup, vraiment, c'est un témoignage de ce moment-là où tu avais justement trois grosses religions qui cohabitaient dans un seul endroit avec une grosse colonisation blanche dans ce pays-là, quoi. Ouais,
ouais, ouais, mais c'est fou parce que, pareil, il y a toute la problématique de « il doit faire la dictée » et tout. Et il y a cette espèce d'acceptation aussi de la colonisation par les Algériens. Et c'est assez intéressant, c'est des trucs qu'on pourrait aller analyser encore plus loin.
Bah ça a déjà été fait. Il en est fier de pouvoir faire la dictée pour ouais, dire un je peu, serai tu vois. Officiellement ouais, le rabbin, surtout, alors vois, qu'en fait toute la communauté sait que c'est lui le rabbin. Et c'est
ouais, c'est
pour
ça,
les
il n'a pas
et
besoin
le chat
de ça.
Même, c'est le chat
le chat qui souligne le ridicule.
Tu fais ça pour des fous, parce que tu fais une dictée en français pour faire... la messe en hébreu à des juifs qui parlent arabe, tu vois.
Ouais. Il y a un très beau planté récolté avec l'histoire du café où il y a le Malka des lions qui arrive, qui est l'espèce ouais. de cousin du désert et qui arrive avec son lion et son fusil et qui lui, du coup, fait fuir tous les clients du café, s'assoit au café sans demander et le serveur, d'un coup, il est vachement plus poli
et le
rabbin. Il arrive, il s'assoit, il fait « Ah, mon ami, mon cousin !» Oui, il m'a deux cafés.
Il va lui dire non à lui. Mais c'est alors, le chat qui dit « Shalom » à Lyon,
ah, oui, oui.
C'est « Shalom, mon frère, shalom !» Incroyable.
C'est génial.
Et t'as la même scène après, plus tard, avec l'âne aussi.
Ah, l'âne, oh là là.
Comment l'âne, il me tue de rire. Le fait qu'il court derrière la Citroën, tout le film.
C'est génial.
Puis même son doublage, le fait qu'il chante faux, mais en plus, il parle faux. Genre même sa voix, ça va pas.
Il y a tout qui est faux.
Ouais, ouais, il est vraiment très très cool. Donc ouais, j'ai pris l'extrait de Tintin parce que je le trouve très radiophonique, il est très rigolo et ça ouvre plein de discussions. Honnêtement, j'aurais pu prendre 20 extraits parce qu'il y a beaucoup de passages dans ce film. Comme j'ai dit, c'est un peu découpé bizarrement et tu te perds, il y a beaucoup de petits moments, mais par contre tous ces petits moments, ils sont vraiment
en fait, ça m'a fait revenir un
bien
petit peu
exécuté.
Ça m'a fait revenir comme c'est une adaptation, ça m'a fait revenir à ce qu'on avait dit sur Paprika. Où Satoshi Kon sur Paprika savait pas trop où il allait dans son adaptation et t'avais dit que le réal était content parce que si lui sait pas où il va, personne pourra deviner. C'est un peu le même ressenti que j'ai dans le chat du rabbin.
Oui, sauf que là, c'est le gars qui a fait la BD qui adapte
ouais,
le truc.
Mais, là, ouais, mais du coup, t'arrives et tu vois
mais genre, ça marche bien, ouais.
que le russe il arrive dans cette espèce de boîte en bois complètement inattendu, qu'après ils partent faire un voyage initiatique à travers l'Afrique complètement inattendu. C'est vraiment, tu sais, t'es au début, tu fais ok, c'est un rabbin, d'un coup il doit faire un test, après il y a le russe qui arrive. Après, ils partent. Après, le russe, il rencontre une femme africaine dont il tombe amoureux. Enfin, tu fais, waouh, attends, il y a plein d'étapes où tu fais.
Il y a l'autre russe aussi, catholique.
Taré, oui, là. C'est magique, c'est celui-là.
Ouais, lui aussi, c'est un des meilleurs personnages du film, mais il est terrifiant.
Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est frais, parce qu'en fait, t'es tout le temps surpris. Le Tintin, tu vois, ça t'arrive en plein milieu de nulle part, ça dure 30 secondes.
Ah, tu vois pas venir à l'avance, hein. Il n'y a rien qui annonce.
Et il repart comme il est venu, quoi, tu vois. Et je pense que c'est un côté de, ah ouais, bah, je sais pas où est-ce qu'on m'emmène, en fait.
Ouais.
J'aime bien.
Ça passe très bien, c'est un très bon film. C'est juste c'est plus la fin qui te laisse un peu en mode ouais. Ah, j'aurais aimé que ça continue un peu plus, peut-être, ouais, je sais pas trop.
Bah, c'est vrai que t'attends un petit peu, mais en fait, du coup, t'as plus l'impression qu'on te raconte une tranche de vie
ouais, c'est ça.
Du chat, parce que bah, c'est lui quand même qu'on suit vraiment du début à la fin.
Je trouve qu'on oublie même un moment qu'il est là, tu sais, quand il commence à partir, je trouve qu'il disparaît un peu, il reste un peu en voix off, mais.
Ouais,
le
ouais.
chat, ouais.
ouais.
Bah, y a le moment où
il se met un peu en retrait.
Il y a le moment dans le désert où il se fait piquer par le scorpion.
Ah ouais, ça aussi.
Ouais, bah après,
mais qui devient
vite,
presque anecdotique et qui revient vite, il reprend la parole.
Mais tu vois, après, surprenamment, on parlait là du juif russe extrémiste, là. Quand,
catholique, lui.
Et catholique.
Pardon, catholique. Quand il se retrouve dans la tribu.
Chez les bédouins, ouais.
Chez les bédouins et qui se fait tuer, inattendu. Ouais. Moi, je me dis, attends, pourquoi d'un coup il y a de la mort dans ce film ouais. Je m'attendais pas.
C'est super graphique.
Pas que ça
c'est hyper violent.
Ouais, ouais, tu vois, mais le mec, il se fait tuer. Tu sais, tu fais, oh, waouh.
Ah ouais, non, moi, quand il y a le docteur, là, qui soigne le chat. Et qui commence à dire et que le cheikh commence à dire attention ils sont très susceptibles parlez pas de religion j'étais là ça va partir en couille
ah bah oui bah ouais, c'est sûr. Sûr bah en fait là c'est dans celui-là que tu vois la différence où à l'intérieur du même religion parce que le cheikh et le médecin
ils sont tous les deux musulmans
voilà ouais. Et c'est juste la différence de génération de comment ils ont enfin pas analyser, mais comment ils voient en fait leur religion, comment elle devrait
être. C'est toutes les branches aussi de l'islam, mais c'est la même chose avec le christianisme aussi, où le russe est un orthodoxe, mais il est dans une église catholique avec un prêtre qui est là. Bon, bah, il est là, donc voilà.
Je le laisse.
C'est ça, tu sais, les protestants. Les juifs aussi, c'est pareil. Il dit, oui, là, il y a le juif qui est russe, il est plutôt sioniste, alors que le rabbin, pas vraiment, tu vois.
Donc, surtout que Johann Sfar, dans sa vie, lui, il vient d'un... Alors, je crois que je les inverse. Alors, je m'excuse si je fais une erreur, mais sa mère est séfarade et son père, il est... j'ai oublié le nom. C'est les juifs séfarades et les juifs... Non, pas orthodoxes.
Non, ça c'est...
Je reviendrai là-dessus.
On corrigera.
Ouais, mais en gros, ses deux parents sont juifs, mais pas de la même
branche.
Pas de la même branche, c'est ça. Et donc, il a dû grandir avec cette.
C'est pas de la même team.
Cette dualité-là, tu vois. Mais
Bah après, ça fait que du
Ashkenaz.
Coup.
Ashkenaz. Ouais. Ah, ok.
Ça fait qu'il a assez de facilité finalement à parler de plein de religions, plein de courants à travers les religions parce qu'il a vécu avec les deux. Donc les parents ont dû quand même accepter un peu des visions différentes l'un de l'autre.
Mais clairement.
Et que du coup, c'est beaucoup plus facile, lui, dans la BD, même en fait, de pouvoir parler de ces sujets-là, mais avec une vision un peu plus, comment dire, d'acceptation en fait de l'autre et tout. Et des fois de montrer genre, bah là, c'est idiot, mais en fait, il suffirait juste qu'on arrive à supporter ou accepter la différence et on vivrait tous très bien, quoi.
Ouais, c'est vrai que je trouve la force du film, c'est sa justesse en fait. Mais comme il a toujours été dans cette dualité, puis avec, enfin, je veux dire, il a vraiment réussi à. Puis je trouve que ça met un peu tout le monde d'accord sur le concept de la tolérance et il touche à tout, mais sans aller. Franchement, il a. C'est très très bien senti, quoi.
Ouais.
Donc, ouais. Et donc, toi, Ségolène, ton extrait?
Mon extrait, justement, c'est quand il croit arriver à une ville super bien, où il n'y a plus de racisme, il n'y a plus de problème, et en fait, c'est tout l'inverse.
Donc, c'est la fausse Jérusalem, là
La Jérusalem noire, comme ils disent, où il n'y a que des juifs noirs. Donc déjà, quand le russe dit qu'il y a des juifs noirs, le rabbin Sfar, il dit, c'est nous les juifs d'Afrique, les juifs noirs, ça n'existe pas. Donc, au tout début du film, quand il dit ça, tu vois que, justement, à l'intérieur d'une même religion... Ben finalement, il y a un peu de racisme. Genre, non, c'est pas possible qu'il y en ait d'autres, quoi.
Les OG.
Voilà, c'est ça. Et en fait, avec cet extrait-là, ce que je voulais parler, c'est justement la recherche d'un lieu genre parfait où tout est beau, tout est bien. Mais qu'en fait, ça n'existe pas forcément parce que dès qu'ils arrivent, en fait, ils se prennent une flèche directe. Les gens se moquent de lui. Il n'y a aucune acceptation.
C'est drôle.
Quand il essaye de prendre le chat, justement, c'est pas dans l'extrait parce que c'était très long, quoi. Mais quand il prend le chat pour dire, à travers la parole, en fait, on va essayer de résoudre le problème parce que finalement, le fait que le chat puisse parler toutes les langues et se faire comprendre par tout le monde, c'était toujours lui qui traduisait pour tout le monde. Et c'est qu'on voyait qu'à travers la parole, les gens se comprenaient, s'acceptaient et ça se passait très bien, quoi. Enfin, mieux. Mais que là, avec eux, en fait, ils sont tellement enfermés, qu'ils vivaient tellement en autarcie, en fait, qu'ils n'acceptent pas la moindre différence, la moindre... le fait qu'il dessine en fait quelqu'un, l'autre il l'interprète comme il vole son âme, donc en fait c'est
ça, c'est un truc très très connu entre guillemets. J'ai un ami qui était photographe, qui est photographe, qui connaît un photographe qui fait des photos en Afrique, et à un moment il a fait une photo de quelqu'un sur une pirogue et tout, puis il a dû prendre la pellicule, encore c'était une pellicule à l'époque, et l'a brûlé et tout, parce que le mec venait vers lui, parce que justement, il y avait ce truc de... Tu m'as pris mon image, tu vois.
Ouais. En parler, il y a beaucoup de pays comme ça où c'est très mal vu de prendre les gens en photo.
Notamment la Corée, non, je déconne.
Mais même au Maroc, c'est mal vu. Les touristes le font, mais c'est mal vu.
Même pour les monuments, genre tout.
Ah, les monuments, non, c'est quand les gens.
Non, c'est les gens, même.
Après, prendre les photos des gens sans leur demander, mais genre vraiment, il y a ce truc-là aussi de croyance.
Ouais, mais c'est... Oui, bien sûr.
Mais du coup, ouais, c'était plus pour parler de ça que du coup, en fait, tu vois à travers tout film, en fait, ces moments d'intolérance, en fait, de racisme, qu'au fur et à mesure du temps, le rabbin Sfar, en fait, au début, il dit, on devrait être accepté par les Français, pouvoir faire ce qu'on veut et tout, mais lui, à l'inverse, il n'en accepte pas certains. Mais à travers le voyage jusqu'à l'Éthiopie, finalement, il s'ouvre. Parce qu'au début, comme tu disais, il est toujours à lire son guide de Citroën. Alors que son ami, le Cheikh Sfar, lui dit « Mais non, regarde, observe,
oui, arrête
découvre.
De lire ton truc. »
Et en fait, quand enfin ils arrivent dans un village africain, Je crois pas qu'ils disent dans quel pays c'est.
C'est l'Éthiopie, non? C'est quand ils arrivent en Éthiopie?
Non.
On sait pas trop. Ils arrivent dans des villages de colons et de chasseurs.
Et quand ils arrivent dans ce village-là, en fait, ils se mettent à jouer, à chanter avec les autres. Et c'est là qu'ils commencent à s'ouvrir un peu plus, à accepter les différences et à avoir moins de problèmes avec. Donc c'est très bien. Donc lui, il évolue comme ça. Tu te dis, bah, c'est très cool. En fait, il commence à être plus comme genre ce que le russe voudrait trouver dans la Jérusalem noire. Mais au final, bah, quand il arrive à la Jérusalem noire, bah, c'est complètement l'inverse. Et ouais. C'est, plutôt genre...
c'est trop drôle parce qu'ils lui disent, ils lui demandent de traduire et le chat dit je veux pas traduire, mais ils se foutent de ta gueule parce qu'ils ont dit qu'ils ont jamais vu un juif rose.
Oui, voilà. Alors qu'ils traduisent au final.
Ils parlent une langue, c'est de l'hébreu ou
non, c'est inventé.
Non, c'est inventé.
C'était censé être de l'araméen.
J'ai rien compris.
C'était censé être de l'araméen, mais en fait, c'était trop... ils ont fait des tests avec des doubleurs qui parlaient araméen et ça marchait pas bien. Et du coup, ils ont inventé une langue.
Ça, parce que l'hébreu, ils le disent, c'est pas une langue utilisée pour parler, c'est vraiment juste pour prier.
Ouais.
Normalement, oui.
Mais après, tu vois, quand t'as ce truc-là où il commence à s'ouvrir un peu au monde, le message, c'est aussi de... Si tu viens quelque part avec tes croyances et tes problèmes, en fait, c'est toi qui ramènes ce truc-là, tu vois. Alors que si t'arrives à venir... Bah, c'est clair que t'as forcément des croyances et des jugements de valeur sur des choses, mais c'est à toi d'être assez intelligent pour vouloir les mettre de côté et laisser la place pour voir autre chose, tu vois. Parce que potentiellement, ouais, il y a des... les préjugés et tout ça qu'on connaît et tout ça, mais en fait souvent ils partent en éclat quand tu laisses un peu porter par les humains que tu rencontres et que tu te rends compte que bah voilà, tout le monde n'est pas pareil et puis que
mais c'est ça. Ouais.
Donc... c'est drôle parce que le juif il arrive aussi le juif russe il arrive un peu en colon quoi. D'une certaine manière, il arrive en mode
oui,
j'arrive dans la ville, t'as rien à foutre là, et il dit oui, ils vont forcément m'accepter.
Ouais,
c'est... ouais, ouais.
Genre, c'est la vision pas... idyllique, genre,
non,
tout
pas
est
vraiment.
Beau, et ils vont.
Alors, en fait, peut-être qu'ils veulent que tu leur foutes la paix, tu vois.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Et le message passe assez clairement, oui.
C'est assez rapide, ouais. Mais du coup, ouais, c'est un peu genre, au final, ça sert à rien de chercher l'endroit parfait où tout le monde sera gentil et il y aura pas de problème, c'est. Faites des efforts, travaillez tous ensemble pour que tout le monde se tolère, arrive à vivre ensemble et de créer ce lieu plus que d'aller en chercher un qui n'existe pas.
Regarde, on y est. Waouh, le panorama! Oh là là, Lyon! C'est la cité de nos origines. Voilà, c'est magnifique! Les gens vivent en paix ici depuis 2000 ans, loin du racisme, loin de la haine. Waouh! Ouh là là, c'est superbe! Oh là là! On va enfin être chez nous! On va être aimés!
C'est peut-être pas l'heure des
visites?
Ça doit être malentendu. Ils ne savent pas qui on est.
Hé! Hey, on est dans votre tribu aussi! Faut pas nous tuer, hein!
Ah! Oh là là! Grand rien!
Je trouve qu'ils ne sont pas très amicaux.
Ils ne nous connaissent pas encore. C'est barrière de la langue, hein.
Moi, je comprends parfaitement. Ils te disent de te tirer.
Oh, c'est malentendu. Explique, on est juifs comme eux. Nous, tous pareils.
Alors voilà, on a tous la même religion.
Après, en fait, là-dessus, ils ont des... Bon, ils ont une arme incroyable qui est la 2D, hein. Quand ils sortent de la forteresse, là, de la Jérusalem noire, les personnages, ils ont des perspectives forcées extrêmes, ce qui leur donne une amplitude. Là. Et en plus, ils mettent la caméra vers le bas en contre-plongée. Et en plus, ils forcent vraiment leur tête. Ouais. Elles sont toutes petites, donc t'as l'impression que c'est des géants
comparés
à eux.
C'est vrai qu'on
n'est
jamais à la hauteur en fait, des habitants jamais, de la ville. On est toujours juste à bas de terre, genre t'es un moins que rien et c'est majestueux ici, quoi, et t'as rien à foutre là.
Après, pour revenir sur... je crois pas qu'on en a parlé, mais on a parlé des doublages au début, mais... Ça m'a tapé vraiment à la fin du film. Je me suis dit, mais la voix du chat, je la connais, je l'ai déjà entendue. C'est où que je l'ai entendue? Je la connais. C'est le professeur Moustache.
Ah, c'est ça.
De Marion Montaigne. Et en fait, en voyant ça, je voyais vraiment la tête avec tous les petits cartoons qu'il y avait sur Arte, là. Ah là là. Et en fait, je me suis dit, mais c'est tellement un bon doublage pour ce perso. Il a vraiment cette voix, cette lassitude et ce petit côté où il va te piquer un peu comme Sacha, voilà, comme on disait. Mais j'aime trop sa voix. C'est vraiment un très bon casting, quoi.
Apparemment, il fait beaucoup de théâtre d'impro, lui.
Ah, mais je connais pas plus sa carrière que ça.
J'ai regardé un peu, il fait surtout ça.
Ouais. C'était qui, tu avais dit, la voix de son précepteur, là, rabbin?
Du rabbin.
Je l'ai pas noté.
Si, t'as dit un nom d'acteur et j'ai oublié, c'est Bena...
Non, Maurice Benichou, c'est le rabbin Sfar.
C'est pas le précepteur.
Et c'est lui qui fait le lion aussi.
Il fait le lion. Ah oui, d'accord. Un truc que je voulais rajouter, c'est on parlait des dessins, on parlait du côté super naturaliste des dessins. Et c'est vrai qu'il y a un truc que j'avais remarqué en regardant, puis ma compagne l'a souligné. Elle a dit « Ah, ça fait du bien de voir des filles avec des rondeurs. »
Oui, elle a du gras au bisou. Ça dépasse par-dessus le pantalon. Elle est en mode genre ouais, on peut tout en avoir.
Mais oui, c'est vrai. Mais en plus, elle est rendue hyper féminine, hyper sensuelle. Elle est un peu fantasmée.
C'est ça, mais elle a envie de. Elle est dans l'âge de. De je découvre mon corps, la séduction. Puis, je sais pas, quand il y a le
Malka.
Quand il y a le Malka qui arrive, elle est intéressée. Ouais. Quand il y a le Russe qui est là, elle est intéressée. Ouais. Mais bon, après, le Russe, il jette son dévolu sur une autre femme. Mais ouais, il y a tout un truc comme ça, super intéressant. Puis, t'as une sorte de rivalité avec ses amis, là, quand elles boivent le thé.
Ouais.
Et pareil, le design, là, avec le nez extrêmement.
Très long. Ouais.
Très long et pointu. C'est quoi, c'est Aquilin ? Non, c'est pas ça, Aquilin, c'est. Bref, mais du coup, il y a des caractères design.
C'est un baroque, c'est un pic, c'est un cap.
Le nez de Pardieu, on va dire, mais c'est le. Il y a tout un. Franchement, l'effervescence qu'il y a entre ces amis-là. Puis je vais
pas
en parler
des
dans le making
poupées,
of.
Quoi.
Exactement. Et c'est ça que je trouvais vraiment bien amené aussi, ouais.
Mais oui, on va parler dans le making of, comment ils ont fait aussi les doublages et tout, c'est cool.
On est parti, hein.
Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi ? C'est quoi que tu nous prépares là, copain ?
C'est quoi ta tambouille, Robin ?
Ouais, j'ai plein de trucs. On va faire le making-of avant, c'est plus court. L'autre sujet, il est un peu plus long. le premier, c'est le making-of. Donc, comment ils ont un peu travaillé le film et comment ils ont amené ces scènes-là ? Et en fait, quand j'ai vu le truc, j'ai fait « Ah, c'est trop intelligent, je pense que j'ai jamais vu ça ». Et après, en revoyant ça, je fais « En fait, si, je l'ai déjà vu ». En gros, il a été prendre les acteurs, il les a mis en costume, en situation, et il a amené ses amis dessinateurs et il devait dessiner.
Comme dans Rango.
C'est ça, dans Rango, c'était exactement la même chose. Il a pris Johnny Depp, il les a foutus en costume dans une petite salle, vraiment comme des gosses qui jouent, quoi. Et c'était vraiment ça. Et en fait,
comme dans Fantastic Mr. Fox aussi.
Oui, c'est vrai.
Mais même comme dans les tout premiers Disney, en fait.
Oui, aussi, mais ils faisaient de la roto, là.
Ouais, non, mais ils faisaient aussi.
La rotoscopie pour les éditeurs, c'est.
Ils faisaient quasiment de la rotoscopie.
Copier image par image en dessin
le
film.
Ils faisaient aussi, genre, juste de l'étude, en fait, de
comment
les vêtements.
C'est exactement
ça
qu'a fait Sfar, en gros, c'est qu'il a appelé ses dessinateurs et ses animateurs, et ils dessinaient les poses, et ils essayaient de capturer l'essence du dessin. Et c'est vrai que c'est pas un film d'animation qui est animé à 12 images, quoi. Il y a des fois des poses qui restent plus longtemps et tout ça. Mais on a toujours l'essence de la bonne pose. Surtout, en fait, on a l'essence du moment. Et puis les actrices, elles ressemblent vachement au dessin. Elles sont modifiées pour être plus dans les caractères design.
Mais c'est fou de voir celle qui joue Zlabia, justement, là.
Ouais.
De voir les making-of. C'est exactement la façon dont elle bouge.
Avec les cheveux frisés, c'est la même coupe de cheveux, sauf que c'est juste amplifié. Il y avait aussi les making-of que vous pouvez voir sur YouTube de François Damien, quoi, où tu vois que c'est limite, il est venu, il a fait une demi-journée, puis c'était fini, quoi. Il a fait son travail, il s'assoit, il lui dit « Vas-y, dis-le comme ça, ouais, ok », puis après tu laisses un peu François Damien faire sa petite sauce, et puis c'est bon, il avait la voix, après il fallait animer Tintin, quoi, tu vois. Pareil, quand il y a les doublages, alors j'ai plus une voix là, effectivement, le nom de l'acteur, mais de son précepteur, quand justement il s'en prend une, là, donc lui c'est un peu le...
C'est pas Eric Elmosino ?
Je sais plus exactement, mais je crois que c'est un peu le précepteur juif vraiment conservateur. Et du coup, quand il découvre le Russe dans le truc, il veut carrément le renvoyer.
Et il veut surtout le retuer quand il voit qu'il est vivant.
Oui, c'est ça, c'est qu'il sort et le gars, il se réveille d'un long voyage de Russie pour arriver en Algérie. Et à son réveil, il se fait étrangler, tu vois. Bon, forcément, il se prend un poing dans la gueule, c'est la catharsis, tu fais yes, merci, quoi. D'ailleurs... Il se prend un poing dans la gueule et c'est bizarre, ils n'ont pas décidé la pose de contact où il se prend le poing dans le visage. Donc t'as un peu ce feeling
gaffe,
de. T'as le bruitage, t'as l'énergie, mais il manque le contact, mais c'est vraiment de la branlette pour animateur. Du coup, en fait, t'as ce doublage-là, quand tu le vois enregistré, où vraiment t'as ce phare à côté qui lui fait vas-y, plus oriental, l'accent encore plus fort et tout, va chercher les trucs. C'est incroyable parce que les acteurs, ils sont vraiment éclatés à faire les voix là-dessus. Puis ce phare, il avait une direction très précise dans sa tête. Donc ouais, si vous avez l'occasion d'aller voir ça sur YouTube, c'est des petites capsules comme ça très courtes qui te montrent un peu ce qui se passe.
Même chaîne où il y a ce que je disais sur la musique, c'est les mêmes.
Ah, c'est la même chaîne, ok, trop bien.
Daniel Cohen, le rabbin du rabbin.
Ah, voilà.
Eric Elmosnino, donc il faisait Gainsbourg, dans le film sur Gainsbourg, c'est le professeur Soliman. Donc le docteur qui soigne le chat dans la tribu du Bédouin.
Ok, d'accord. Et puis, comme on l'a dit, Le bouquin du chat du rabbin, c'est 7 tomes, je crois. Non, c'est 7 tomes, et ils en ont adapté 3. Donc en fait, c'est, je pense, ça vient de là un peu les... le côté surprenant et le côté c'est un peu
il
du mal
12
à...
12 tomes même.
12 tomes, pardon. Et ils en ont pris que 3, parce que c'est clair que 12 tomes, là, c'est long. J'en ai feuilleté quelques-uns et tout, et c'est vrai que... Bah, il a pris les meilleurs moments, les plus parlants en fait des tomes. Mais c'est vrai que du coup, quand tu les connectes, c'est un peu spécial, quoi. C'est un peu bizarre.
Ça fait un peu un gloubi-bouga où il faut réussir à lier le tout.
Ouais, clairement, avec un fil narrateur. Mais
j'ai pas lu les BD, mais j'ai lu dans d'autres articles qui disaient que c'était très verbeux aussi à certains moments, qu'il y avait beaucoup de moments d'échange entre le rabbin et le chat.
C'est plus théologique peut-être. J'ai vraiment envie de les lire
ils
maintenant.
Ils ont un peu étayé ces moments, enfin ils ont énormément étayé ces moments-là dans les histoires pour l'adapter au cinéma.
Bah, il s'est
parce
fait aider d'une
ça...
scénariste ciné
ouais, voilà.
pour le faire.
C'est pas très cinématographique de voir juste un chat parler avec un rabbin pendant des plombes. Sur une BD ça passe bien, mais ouais. À la télé, enfin au cinéma ça aurait été un peu chiant quoi.
Clairement. Et ils ont monté un studio.
Oui, ouais. Qui s'appelle Otto Chenille avec ouais. Antoine Delevaux justement.
Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont voulu l'adapter. À chaque fois, il disait non. Et à un moment, il a fait c'est moi qui vais le faire.
Il a juste monté le studio. Je pense qu'ils ont fait 2-3 autres films après. Mais pas grand-chose.
Mais c'est, du coup, ils ont monté le studio pour le film.
Et un studio de production et un studio d'animation.
Et un studio d'animation. Ouais.
Donc, du coup, le côté un petit peu amateur sur certains trucs, en fait, il dérange déjà pas beaucoup. Mais surtout, quand tu sais qu'il l'a monté de zéro, ils ont fait le film, c'était quoi, un an de production, un truc comme ça.
Amateur, oui et non, parce que finalement ils ont quand même réussi à choper des artistes avec beaucoup d'expérience aussi. Il y avait pas mal de juniors, c'est sûr, mais il y avait aussi beaucoup d'artistes expérimentés.
Ouais, mais je veux dire, en termes de qualité d'animation ou de dessin, il y a des trucs des fois où tu as.
Ils ont mis le paquet sur certaines séquences.
Clairement, typiquement, son précepteur juif rétrograde, quand il danse, ou même quand
génial,
il a des scènes d'animation,
scène.
Les bouches, tout ça, tu vois qu'il y a tellement plus d'inter, d'amorti, là où c'est un peu plus économique. Alors après, c'est peut-être aussi une direction de je veux que ce personnage il bouge comme ça.
Il y a beaucoup de personnages qui ont des styles, genre le russe fou aussi, il a un style d'animation beaucoup plus réaliste.
Clairement, mais je me suis dit, on l'a casté aux mêmes animateurs que le guion animé. Mais peut-être c'était aussi l'intention d'avoir vraiment des manières de bouger beaucoup plus. Là où la fille, elle est un peu plus lascive, un peu plus calme, un peu plus contenue. Après, c'est vrai aussi dans le character design. Hein, le rabbin, il est un petit peu. Il a de l'embonpoint, donc c'est clair qu'il bouge plus tranquillement et tout ça.
Et il est tellement chill.
Mais il est tellement chill. Tu vois qu'il
est
juste
bien.
Là, il veut.
C'est un gros nono.
Il veut kiffer sa vie, tu vois. Ouais. c'est vraiment trop beau, quoi. T'avais d'autres trucs à rajouter pour le making of?
Non, je pense pas.
Je voulais parler un petit peu de l'adaptation en film d'animation quand on parle de religion ou de croyance. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous demander, petit quiz.
C'est parfait, on vient de parler d'un personnage belge raciste. Vas-y, continue.
Allez, fais-nous ton accent.
Non, c'est bon, je ne vais pas le faire. Est-ce que vous avez des films qui parlent de religion en animation?
Prince d'Égypte.
J'avais
préparé.
J'aurais même pas le temps de finir la phrase. Il m'aurait déjà dit.
À partir du moment où t'allais dire que je vais vous faire des questions sur la religion, les films d'animation, j'étais il y a le Prince d'Égypte déjà. Hein,
voilà, et les autres, je vous attends.
Ah oui, non, les autres. Si, il y avait The Stars, où il parle de la naissance de Jésus.
Ouais, bien Stars, joué. Ouais, bien joué.
Il travaillait dessus, c'est pour ça, ouais.
Ok, d'accord, ok. Après.
Et attends.
Ils sont pas très connus, hein, je vous le concède.
Non, souvent c'est
pas. Il y en a un, il s'appelle Il était une fois Jésus. C'est un film anglo-russe qui présente l'histoire de Jésus en utilisant la technique de la pâte à modeler. Il y en a un qui s'appelle Joseph, le roi des rêves. Ça, c'est produit par DreamWorks et ça narre l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, et son ascension au pouvoir. En Égypte.
Est-ce que Tokyo Godfather, c'est pas un peu les rois mages du coup?
Mais
il y a eu
la légende de Bouddha. Ça, c'est une retranscription fidèle de la vie du prince Siddhartha Gautama. Et il y en a eu deux autres. Il y a eu Bouddha le Grand Départ. Ça, c'est aussi sur les religions bouddhistes. Donc, il y a un film d'animation qui revient sur l'histoire de Bouddha, tout simplement. La Genèse, qui est un long métrage d'animation français. De découpage de la Bible.
J'en ai un, c'est La prophétie des grenouilles. C'est une réécriture du déluge.
Ah ouais, c'est vrai. Et il y en a un qui s'appelle Muhammad. Alors Muhammad ou Muhammad, je sais pas le prononcer. Le dernier prophète. Et alors, à votre avis, c'est quoi le problème avec ce film?
Représentation du prophète.
La représentation du prophète.
Ouais.
Du coup, comment ils ont fait?
Ils l'ont jamais montré directement.
Du coup, comment ils ont fait?
Une voix?
Non.
Ouais. Non.
Tout se passe dans son point de vue.
Ah, la bonne idée. J'avoue, c'est pas mal. Par contre, ça a dû être galère.
Et apparemment, il a même reçu un compliment de des gens qui représentent l'islam pour lui dire bah good job parce que
t'as raconté l'histoire,
sans jamais montrer le prophète. Wow. Et vraiment bravo.
Comme quoi c'est possible.
Oui.
De aussi respecter les croyances des gens.
C'est ça. Ouais.
Puis même d'avoir leur félicitation, tu fais putain c'est pas souvent hein.
Et du coup, en fait, après, là, moi, je me suis un peu baladé en ligne, puis je suis tombé sur un très bon article qui parlait un petit peu de la relation entre la représentation et tout ça, où, en fait, par exemple, le choix du rabbin, il est beaucoup plus sur la tolérance, l'acceptation et le fait que chacun a le droit de croire à ce qu'il veut, sans pour autant dresser des barrières. Et si votre religion prône la tolérance, arrêtez d'être extrémiste et de mettre des barrières, en fait, puisque voilà. Là où le prince d'Égypte, il est plus dans l'interprétation de l'histoire de Moïse. En gros, c'est ça. Il y a eu d'autres petits trucs qui étaient.
Le prince d'Égypte, il parle pas tant de religion, qu'il parle de. On en avait parlé dans l'épisode, il parle d'une relation entre frères, mais il parle de foi aussi.
Ouais, il y a
gros
beaucoup,
truc du film.
Ouais, il parle de la foi, ouais. Et il y a eu une très grosse. Alors ça, je savais pas du tout. Mais il y a eu une grosse controverse avec une licence très connue de Nintendo. Est-ce que vous savez c'est quoi?
De Nintendo.
Ouais.
Mario, j'imagine.
Non.
Zelda.
Non. Pokémon.
Pokémon.
Ah ouais.
Ah oui, je me rappelle.
Et en fait, il y a certains produits donc comme Pokémon qui ont suscité une controverse parce que leur connotation religieuse. Et il y a beaucoup de mouvements religieux qui ont, notamment en Arabie Saoudite, qui ont revendiqué l'interdiction des Pokémon.
Un peu, qu'est-ce qu'ils interdisent pas en Arabie Saoudite?
Oui, ouais. C'est pas l'exemple à prendre.
Ne politisez pas le bordel, ok.
Politiser, c'est juste vrai.
C'est pour regarder.
Et du coup, donc moi j'ai découvert ce truc-là, je savais pas du tout, mais donc il y a Pokémon qui a été interdit dans certains pays de cette confession-là. Donc en gros, c'est ça. C'était un bon article, en tout cas, qui parlait de tout ça, des différentes fois où les films d'animation se sont attelés à la tâche d'essayer de parler de religion, de croyances et tout ça, tout en gardant un œil objectif et sans rentrer dans des trous de souris qui peuvent être très dangereux et qui finalement ont fait l'unanimité. Donc c'est vraiment possible. Hein.
Ouais.
Faut juste trouver le bon angle d'attaque et puis être sûr qu'on respecte tout le monde et de faire ça dans la.
Tu peux parler de choses, de sujets difficiles comme ça, mais il y a aussi une histoire de bon sens en mode sois pas juste irrespectueux.
Irrespectueux ou essaye pas d'évangéliser les gens à travers.
Aussi,
Tu vois, c'est vrai que le prince d'Égypte c'était un peu trop. Soyez chrétien, tu vois. Le deliverous, tu vois, j'étais en mode. C'est pour ça que ça m'a un peu dérangé. Oui,
mais c'est des juifs. Ça marche pas.
C'est vrai. C'est pas des chrétiens.
Et après, moi, je suis un grand fan de cette série d'animation qui est South Park. Et eux, ils ont eu énormément de problèmes avec la représentation de Mahomet. Et ils ont eu des grosses menaces dans leur studio et tout ça. Là où leur chaîne de diffusion, qui est Comedy Central, a en fait, au dernier moment de la diffusion, mis des grosses censures. Quoi. Et donc, il y a même un épisode entier qui tourne autour de ça, où c'est ils vont représenter Mahomet à la télé, et puis ils vont se faire bombarder. Quoi.
Ouais.
Finalement, ils le mettent dans un costume d'ours. Donc en fait, on le voit pas. Ou alors, à un moment, quand ils disent « Purée, vous rendez pas compte ?» Ou alors, ils vont tous se mettre dans des abris anti-atomiques parce qu'ils vont représenter Mahomet. Puis finalement, quand ils vont voir l'épisode, en fait, Cartoon Comedy Central a juste mis un grand carré noir sur le prophète avec écrit « Censored » pour pas qu'on le voit. Alors, et ça, c'est vraiment dans les épisodes récents qu'il y a eu ces problèmes-là, parce qu'au tout début de la série, dans les années 98-99, Mahomet est représenté à côté de Moïse, à côté de Jésus, et il y a un épisode qui s'appelle Les Super Best Friends, et t'as Bouddha, Jésus, machin, qui sont là pour sauver le monde, et Mahomet est là, est dessiné, mais ce truc-là n'a pas du tout fait de controverse. C'est vraiment très récemment qu'ils ont vraiment eu ce genre d'énormes problèmes de menaces terroristes et attaques dans leur studio s'ils faisaient une représentation de ça.
Tu le vois à travers en fait, le Cheikh Sfar et puis justement le camp de Bédouin, là, quand ils rencontrent dans le film, où tu fais ces. La même religion, mais c'est deux générations différentes où il y en a une qui est très tolérante, beaucoup plus dans l'acceptation des autres aussi, de respecter les choix des autres au niveau de leur propre religion et ne pas mettre dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, alors que le camp de Bédouin, c'est clairement au début, tant qu'on n'en parle pas trop, ça va, même si c'est un peu difficile, et puis dès qu'on commence à parler religion, c'est non mais la nôtre elle est mieux voilà,
c'est,
ils sont vachement plus agressifs, vachement plus protecteurs avec une vision ils ont pas la même vision en fait de comment
Je les vois comme les juifs d'Éthiopie qu'on voit à la fin. C'est n'importe quelle communauté qui est renfermée sur elle-même, qui vit en autarcie en fait, qui est pas du tout ouverte sur le monde et donc forcément n'a pas de vision de l'extérieur, elle est pas du tout objective.
Et du coup est-ce que vous pensez que l'animation apporte une certaine douceur pour aborder ce genre de sujets qui sont houleux, quoi. Ou est-ce que c'est des sujets que peu importe le média, tu dois toujours être très frileux et faire
très
attention.
Moi, je trouve que ça apporte du contraste dans les propos. Ouais. C'est ça qui était intéressant. On parlait des styles d'animation qui changent à la fin, mais il y a aussi un petit côté, la violence est beaucoup plus présente et beaucoup plus graphique. Quand le Russe se bat contre justement Soliman là, dans le camp de Bédouin, il y a ce côté vachement plus réaliste d'un coup.
Ouais, ouais.
C'est très réaliste, c'est très graphique et du coup il se permet ces changements là avec l'animation que tu pourrais pas trop faire en live action.
Je pense que c'est plus facile d'accepter et de voir ça avec de l'animation où c'est pas des gens.
Ça rejoint ce qu'on
acteurs,
disait sur Funan par rapport à la guerre.
Parce que quand tu mets des vrais acteurs en plus, ça se trouve alors qu'ils incarnent que des personnages, hein, mais ils auraient les acteurs auraient pu prendre des menaces et quoi que ce soit, alors que en fait, certes, ils ont accepté de tourner dans le film et tout, mais ça reste que c'est un acteur, c'est pas lui qui a écrit le personnage.
Alors que l'acteur de doublage, tu vas pas le chercher parce que c'est pas sa face, tu vois.
Non,
et c'est, la suspension d'incrédulité est plus forte aussi, je pense.
Mais je suis d'accord, mais il est quand même allé chercher des gens de la même confession que les personnages qui doublent. Genre, il a pris un belge pour François Damien, celui qui double...
La confession belge.
Très bonne confession. Non, mais il y a un truc, je pense aussi, tu vois, c'est clair que si t'avais fait faire... Il y aurait une... sûrement une caricature raciste de faire quelqu'un qui double quelqu'un de juif, tu vois, parce que alors que si quelqu'un est de confession juive, tu vois, dans les making of, quand tu vois les acteurs qu'il a pris, bah ils sont
je
juifs.
Je sais pas en fait. Ouais, peut-être pas tous.
Pas tous, ouais, je sais pas.
Bah, en tout cas, ils ont au niveau peut-être de leurs origines, ils viennent peut-être plus proches de.
Non,
ces
mais
lieux,
c'est ça que je
même
dis. Ouais,
même si ce sont
ça.
Pas forcément des confessions, quoi.
Bah,
mais ouais, il a
bien
été
sûr,
sûrement
ça,
plus respectueux pour
idée.
Ça, pour que ce soit plus authentique aussi. Quoi.
Oui. Ouais, ouais, clairement. Mais voilà, du coup, un peu pour mon point. Donc, je pense que c'est quand même très délicat, moi, je trouve, à adapter, surtout des sujets qui sont.
De toute façon, ça dépend toujours du point de vue aussi de la personne qui adapte ça. Quoi.
Et je trouve que c'est quand même vraiment dur. Tu vois, typiquement, si on revient sur Funan, c'est un film de guerre. Les atrocités qui ont été faites, c'est des faits. On peut les montrer, on n'a pas de problème, les faits, ils sont là, c'est les faits, c'est tout. Là où, quand on arrive sur de la spiritualité, tu dois quand même plus jongler dans les thèmes.
Ouais, mais je pense que même sur les faits historiques, il y a toujours une part d'interprétation, parce que c'est dans le passé, même si c'est très documenté.
Ouais.
Ouais.
Il y a toujours un regard, parce que là, on parle d'un média artistique, on ne parle pas d'un documentaire. Mmh. Donc, il y a toujours une part d'interprétation, et là, je pense que c'est un peu la même chose. Si tu voulais faire un documentaire sur les religions, un truc très théologique, un truc vraiment sur l'histoire du judaïsme, du christianisme, de l'islam, ce serait très différent que ce qu'on a là. Là, c'est plus comme ce qu'on fait nous, tu vois, c'est plus un débat. Lui, il ouvre une discussion sur la tolérance et tout. Il n'y a pas vraiment de réponse, son film n'apporte pas vraiment de réponse, à part le fait que, bah, oui, il y a des gens qui se tolèrent, comme le cheikh et le rabbin, il y a des gens qui ne se tolèrent pas, comme les bédouins, comme les juifs noirs.
Je trouve qu'il y a un truc où il a vraiment... Je trouve que c'est bien senti parce que c'est jamais insultant pour personne.
Oui.
Alors, il y a des caricatures.
À part pour les colons.
Oui.
Mais c'est pas grave.
Mais oui, bon, ça, voilà, fait pour leur gueule. Mais même son précepteur, là, qui est assez conservateur.
Ouais, extrémiste.
Tu sais, il est parti dans une caricature assez forte, mais ça te permet de détacher, de comprendre qu'en fait...
Mais il est tellement... il est tellement caricatural, justement.
Ouais, tu vois, du coup, je trouve qu'il y a ce truc-là dans l'animation qui te permet de dire, ben voilà, ça, c'est... un pamphlet, une version des croyances, mais qui n'est pas forcément la bonne, et parce que on te met en face le rabbin Sfar qui est beaucoup plus mesuré et qui est beaucoup plus, tu vois, typiquement, comme j'ai dit, là, cette scène où il danse avec son pote musulman, et puis il y en a un qui prie vers la Mecque, l'autre qui prie. Enfin, tu vois, je fais, c'est trop beau, tu vois. C'est comme ça que ça devrait être, en fait. Tu vois. Mais toi, t'as dit qu'il y avait un rabbin qui avait analysé le film ?
Oui, en fait, pas forcément analysé, mais il a fait un article après dessus. Et c'était un rabbin que Johann Sfar avait demandé à ce qu'il fasse une préface pour sa première BD. Et sur le coup, il avait refusé parce qu'il croyait que ça allait pas être respectueux au niveau de la BD. Et en fait, il a regretté après coup parce qu'en la lisant... Enfin, il y a des amis à lui qui lui ont dit « Non, mais tu devrais lire et tout pour voir. » Et en fait, en la lisant après coup, il s'est rendu compte que non, pas du tout, qu'il était respectueux, qu'il était plutôt... dans la critique de certains comportements que des personnes religieuses peuvent avoir, peu importe quelle religion tu as, qui ne sont pas forcément corrects, et voilà quoi. Des comportements justement très genre, c'est que nous les juifs d'Afrique, c'est bizarre les juifs qui sont en Russie, des trucs comme ça quoi. Et il n'était pas du tout négatif au niveau de son analyse et tout ça, il était vraiment plus dans... il montre de manière tolérante, positive, les différentes religions, comment elles peuvent vivre ensemble ou pas, des fois, et tout ça. Donc, il faudrait que je retrouve, mais c'est pas trop compliqué à trouver sur Internet, quoi.
Mais tu vois, mais moi, j'avais aucune idée de toute cette histoire qu'il y avait eu avec les Juifs russes. J'ai découvert complètement ça, ça m'a complètement informé là-dessus, j'étais pas au courant. D'ailleurs, la séquence, on en parlait avant, de quand il raconte en flashback via le dessin, parce qu'il parle pas la langue, ce qui lui est arrivé, c'est un mastering de Show Don't Tell encore, tu vois. Tu vois, c'est vraiment genre, tu comprends tout ce qui se passe, t'as pas une ligne de dialogue, t'as juste de la musique. Les persos sont extrêmement... Alors, je sais pas après s'il est dans une caricature bizarre des Juifs où il leur a fait un grand nez, ce genre de truc, pour qu'on comprenne qui mais est qui,
il,
tu vois.
Il le fait juste avec le russe.
Ouais, juste avec le russe, justement, mais c'est pour qu'on comprenne. Les cathos, ils ont pas ce nez-là, mais je fais...
Oui, mais même dans son design, on va dire, normal, il a un gros nez.
Oui, ça. Et puis quand il arrive à la Jérusalem noire, pareil, il repart dans ces designs-là.
Ouais.
Donc, il s'est quand même appuyé sur des caricatures qui sont pas très bien considérées.
Il en parle un
peu
en disant que oui, ils ont dessiné d'après nature pour éviter les caricatures, mais qu'ils ont quand même utilisé.
Bah, faut quand même réussir à différencier les personnages assez facilement. Je pense que c'était aussi pour faire parallèle avec le moment où il y a un colon qui lui dit voilà comment on doit dessiner
les noirs. Oui, les noirs,
ouais, c'est ça.
Quel fils de pute, lui.
En bah, il en prend une, hein, déjà. Pour montrer la ligne. Ouais. Et en fait, le russe dit le juif russe dit les russes, ils font exactement pareil avec nous en Russie, en fait.
Ouais.
Ils nous traitent comme des moins que rien et ils font les mêmes trucs des mêmes règles. Et le fait qu'il ait un gros pif, bah, en fait, cette ligne, finalement, qui est oblique. Bah, tu peux la retrouver un peu chez lui aussi. Donc,
ouais, mais c'est exactement ce qu'ils ont utilisé.
Peut-être pour appuyer un peu ça aussi. Quoi.
Attention, point Goldwyn, on est obligé d'y passer, mais quand il y avait la propagande nazie, les dessins et tout ça, c'était pareil. Hein, c'était,
ah bah oui, oui, oui.
Ils en prenaient plein leur grade. Quand tu vois les dessins, c'est horrible, quoi.
Non.
Mais le gars là qui explique... ils ont retrouvé en plus plein de bouquins sur l'analyse morphologique de comment dessiner. Ah, c'est horrible, la manière.
Meilleur film là-dessus, c'est Django.
Oui.
Il y a la scène avec DiCaprio qui finalement se fait fumer par Christopher Waltz. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter sur ce film?
Non.
Soyez tolérants.
Oui,
acceptez
voilà.
Aimez-vous les uns les autres. Bah, si vous avez un chat qui parle, arrêtez de boire, je sais pas.
En vrai, c'est un peu le message du film, quoi. C'est,
oui.
C'est
surtout avec ce qui se passe en ce moment dans le monde.
Oui, voilà, soyez tolérants et écoutez-vous les uns les autres. Le chat, il parlait tout le temps, c'est juste qu'on l'écoutait pas.
Voilà, le podcast de l'amour. On va pouvoir conclure là-dessus. C'est déjà la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez une recommandation?
Oui.
Robin, vas-y.
Alors, en faisant mes recherches, je la connaissais pas cette reco, mais je vous la donnais. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un petit court-métrage extrêmement mignon en animation 2D qui s'appelle Suraya. Ça dure 3 minutes 20 et ça parle de croyances et tout ça. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite souris qui amène sa petite graine parce qu'on demande au village d'amener la petite graine. Et en fait, elle se retrouve enfermée dans le temple où on leur demande de ramener les petites graines pour honorer le dieu. Et en fait, elle se rend compte que les rois et tout ça se baffrent de graines et en fait, ils en ont rien à foutre. Et grâce à cette croyance, en fait, on comprend que les graines... Et on voit qu'autour d'elle, c'est un jardin qui n'a pas de vie et tout ça. Et en fait, quand elle arrive à combattre ces trucs-là, et ça va vraiment vite, en 3 minutes, tu comprends assez rapidement ce qui se passe. La graine tombe dans le sol et d'un coup, à partir de là, ça fait renaître la vie autour d'eux et d'un coup, on a un truc prospère. Et ça parle un peu des croyances et de ce qu'on pense qu'on doit faire pour se faire bien voir, alors qu'en fait, c'est juste de la manipulation. Je trouvais ça vachement intéressant. C'est pas de dialogue. 3 minutes, c'est super beau.
Ok, Suraya. J'aime bien le nom. C'est go.
Alors moi, c'est une mini-série Netflix. Pour une fois, ils ont fait un truc bien. C'est toute la lumière que nous ne pouvons voir.
Ah oui.
Donc c'est juste 4 épisodes. Ça se passe à Saint-Malo intramuros. Et en fait, tu suis une demoiselle qui est aveugle. Comment ça se passe au niveau de la fin de la guerre à Saint-Malo avec les nazis qui ont fermé les portes de la ville qui va se faire bombarder par les Américains qui préviennent les Français de partir s'ils ne veulent pas mourir sous les coups de bombe. Ça, c'est un peu globalement le le basique de l'histoire. Il y a d'autres choses, puisqu'on ne suit pas que elle, en fait. On suit aussi un Allemand qui a été obligé d'aller dans l'armée nazie. On suit un nazi qui, lui, cherche une pierre précieuse qui est censée lui permettre de rester en vie, et le père de, comment dire, la demoiselle. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Pour le coup, niveau ouverture d'esprit, tolérance et tout ça, bah, ça en reparle. Et ça se regarde très vite. C'est juste 4 épisodes d'à peu près 1 heure. En 2 soirées, c'est fait. Tellement t'as envie de voir la suite.
Trop bien.
Cool.
Et toi, Jean?
Merci. Moi, je vais vous recommander un compte Instagram de Joachim Sans
12 FPS podcast.
Aussi. Aussi, mais ça, je vais le faire juste après. Je vous raconte le compte Instagram de Joachim Sanselm, donc qui est un dessinateur de BD, et en fait sur son Instagram il pose des petits strips de BD avec son chat qui fait de la philosophie. Du coup, ça m'a fait penser au chat du rabbin.
Ah oui.
Voilà, et c'est super intéressant. Il explore des concepts philosophiques de différents philosophes à travers les siècles. Voilà, mais via des scènes de la vie quotidienne. Donc si ça vous intéresse un peu des réflexions philosophiques et un chat, bah foncez, c'est vraiment fun. Il y en a quelques-unes et vous allez apprendre des trucs sur moi.
Trop cool.
Super, merci.
Ok, la prochaine fois, on vous parle de Vaillant Pigeon de Combat.
Aïe.
Ça va être super. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les suivants, que ce soit sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, un pouce en l'air, etc., etc. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, allez voir des films
d'animation. Bisous.